Maintenant, une autre bande organisée, Os Cangaceros, et tu vas nous lire un bout de la note éditoriale numéro 2. Vas-y.
Nous, Cangaceros, nous parlons beaucoup de la violence dans les banlieues. Toutefois, nous ne pensons pas qu'il y ait que là qu'il se passe quelque chose. Seulement, beaucoup de nos semblables y vivent, et souvent nous-mêmes. Nous ne faisons pas que parler de la violence. C'est notre élément. Et même, peut-on dire, notre... le quotidien. La violence est d'abord celle des conditions qui nous sont faites, celle des gens qui les défendent et plus rarement, hélas, celle que nous leur renvoyons à la gueule. Nous ne connaissons pas tous nos ennemis, mais on connaît ce qu'ils défendent. Tous nos alliés ne sont pas forcément nos complices. Il arrive qu'ils le soient. Nous ne sommes pas en rapport avec tous nos alliés. Les chômeurs qui combattent l'indigence sont autant nos alliés que les travailleurs qui se révoltent contre le travail et échappent au contrôle des syndicats. Nous ne pensons pas détenir une vérité universelle, mais la communiquer. Les vérités universelles sont celles qui se communiquent, mais celles que l'on détient. À ceux qui se demandent si nous sommes assembléistes, conseillistes, nous répondrons que ce qui nous importe est de savoir comment les gens établissent et organisent le dialogue. Nous ne sommes pas des terroristes parce que nous tenons à la clandestinité. Creuse vieille taupe, disait-on jadis. À notre époque, les gens qui affirment des exigences révolutionnaires passent pour des rêveurs. Mais l'homme est fait de la même matière dont sont faits ses rêves. Nous sommes révolutionnaires. Os Cangaceros veut dire tout est possible. Nous sommes en guerre. Rien n'est vrai, tout est permis. Nous sommes nombreux par rapport à l'atomisation régnante. On a beaucoup d'alliés de par le monde. Notre programme est très ancien. Vivre sans temps mort. Nous comptons bien sûr lui assurer sa publicité par le scandale. Il n'y a pas d'autre moyen digne d'un tel programme. Notre existence en elle-même est déjà un scandale. Nous ne sommes évidemment pas indispensables. Toutefois, il se trouve qu'en plusieurs occasions, nous avons dû l'être. Dans la guerre sociale, nul ne peut être dispensé. Nous sommes aussi très méfiants. L'expérience prouve que l'on n'est jamais assez. La méfiance juge de la confiance qu'on accorde aux autres. Nous ne faisons pas vraiment partie de ce qu'on appelle couramment le monde du travail, encore que nous en sommes issus. Mais lorsque des luttes dignes de ce nom s'y déroulent, elles combattent, elles aussi, le monde du travail et s'en prennent à ce qui contraint les pauvres au travail, la nécessité de l'argent. La question est d'apporter du sang neuf dans cette époque et d'en avoir les moyens. À plusieurs reprises, lorsque nous sommes allés rencontrer des grévistes mineurs en Grande-Bretagne, on nous a posé cette question élémentaire. Quelle force constituez-vous réellement? Qu'allez-vous pouvoir faire des informations que nous vous donnons? À ces questions, il faut être en mesure de répondre clairement. D'autant qu'un regroupement comme le nôtre n'est pas évident pour tous. On nous a aussi demandé en Pologne, mais qui donc êtes-vous? Quel est votre mouvement? Il faut savoir manifester le caractère universel de notre existence. L'intérêt que nous portons aux révoltes de nos semblables dépasse l'intérêt qu'a le pauvre isolé pour le monde qui est souvent sans moyens. Cependant, il doit être bien clair que nous ne parlons que de ce qui nous concerne. En aucun cas nous entendons faire de l'assistance aux luttes d'autrui. Nous entendons simplement les rencontrer et prendre part aux réjouissances. La plupart des travailleurs révoltés que l'on est amené à rencontrer sont encore influencés par l'état d'esprit militant issu de l'ex-mouvement ouvrier. En l'état actuel, on ne peut miser que sur des rencontres avec des individus pris isolément. Encore, il nous arrive de passer par le biais de groupes organisés qui conservent encore quelques illusions sur le syndicalisme et où se trouvent des travailleurs révoltés. Si l'activisme de ces groupes nous laisse froid, on y connaît des gens qui sont très proches de nous par le refus du travail. Les jeunes kids de banlieue, ayant plutôt l'habitude de rencontrer des gens isolés ou des bandes locales, sont toujours un peu étonnés de voir, quand ils nous rencontrent, un groupe constitué et organisé. À l'opposé, les travailleurs en lutte, ayant plutôt l'habitude de voir des gens qui agissent en tant que membres d'une organisation officielle, sont étonnés, quand ils nous rencontrent, de voir des individus qui semblent agir en leur seul nom. En Grande-Bretagne ou en Espagne, nombre de travailleurs révoltés ont été ainsi surpris de voir un groupe de chômeurs à vie organisé, ayant des contacts et des informations internationales et disposant de certains moyens, alors qu'il existe indépendamment de tout appareil politique et syndical. Finalement, nous intriguons par notre simple existence. Mais de toute façon, le seul risque sérieux que nous courons, c'est celui de mourir pauvre.
day when I cried out for help. No one came a running, and that's when I first knew I am all I got. Went to the wise man, but no answer he could give. I went to the kind man, he shrugged his shoulders and wept. You are all you got. I went to the saint, but he was busy praying. I paid a visit to the sinner, and he said, brother, don't even bother. You are all you got. I went to see my mother, was busy dying. I went to my father's grave, but he was merely dust. Yes, I'm all I got. Forgive me, pretty darling, but I am all I got. Believe it or not, love will save us not. I am all I got. I am all I got. There might come a day when the Lord will embrace me. Son, get on your knees and pray. I am all you got. But until that day, I am all I got.
Alors, voilà, il est 17h28, c'est Radio Potlatch sur la clé des ondes 90.1. Nous avons eu un appel d'une auditrice qui veut nous lire quelque chose à l'antenne. Donc voilà. Et d'ailleurs, si n'importe qui d'entre vous a envie de nous lire quelque chose à l'antenne, vous pouvez nous appeler. Le numéro, notez-le bien, c'est le 05 56 50 69 99. 05 56 50 69 99. Donc maintenant, auditrice, on va essayer de te mettre en ligne. Tu nous entends ?
Ouais, je t'entends.
Ouh, cool. Eh ben, écoute, nous on t'entend aussi. C'est à toi.
Ok, très bien. Bon, ben, je vais lire le tout début de L'Homme Jasmin, un livre écrit par Unikasium, qui est une écrivaine allemande, qui a aussi fait de très très beaux dessins. Je vous conseille de les regarder.
Vas-y.
Une nuit, au cours de sa sixième année, un rêve de dormir derrière un haut miroir, tendu dans son cadre d'acajou au mur de sa chambre. Le miroir devient une porte ouverte qu'elle franchit pour parvenir à une longue allée de peupliers menant tout droit à une petite maison. La porte en est ouverte. Elle entre et se trouve devant un escalier qu'elle monte. Elle ne rencontre personne. La voilà devant une table sur laquelle il y a une petite carte blanche. Quand elle la prend pour y lire le nom, elle s'éveille. Ce rêve lui fait une si forte impression qu'elle se lève pour pousser le miroir sur le côté. Elle trouve bien le mur, mais pas la porte. Prise d'un inexplicable sentiment de solitude, elle se rend, le matin même, dans la chambre de sa mère, comme s'il était possible de retourner dans ce lit, là d'où elle est venue, pour ne plus rien voir. Une montagne de chair tiède, où l'esprit impur de cette femme est enfermé, s'abat sur l'enfant épouvanté. Elle s'enfuit, abandonnant à tout jamais la mère, la femme, l'araignée. Elle est profondément blessée. C'est alors que pour la première fois, elle a la vision de l'homme jasmin. Immense consolation. Reprenant son souffle, elle s'assoit en face de lui et le regarde. Il est paralysé. Quel bonheur. Jamais il ne quittera le fauteuil qu'il occupe dans son jardin où, même en hiver, le jasmin fleurit. Cet homme devient pour elle l'image de l'amour. Plus beau que tous ceux qu'elle a jamais vus, ses yeux-là sont bleus. Elle se marie avec lui. Le plus beau, c'est que personne n'en sait rien. Et c'est son premier, son plus grand secret. La présence immobile de cet homme lui dispense deux leçons qu'elle n'oubliera jamais. Distance, passivité. Beaucoup plus tard, on tourne en elle des clés, l'une après l'autre, mais elle ne s'ouvrira pas. On se lasse vite de cette petite boîte inutilisable et on la jette. Car dans les années qui viendront, elle ne verra par-dessus l'épaule des hommes sur laquelle elle se penchera, rien que l'homme jasmin. Elle restera fidèle à ses noces d'enfant. En 1957, à Ermenonville, village des environs de Paris, elle écrit six petits récits pour tenter de s'affranchir d'une impression qui est devenue par trop forte, mais elle n'y parvient pas. Quel bonheur d'être enfin avant le commencement. Rien ne peut nous arriver parce que nous ne pouvons pas nous arriver à nous-mêmes. Lorsqu'un million de globules rouges l'abandonne, lorsque son corps se couvre des innombrables taches rouges d'une allergie, elle écrit dans ses notes d'une anémique « Quelqu'un qui voyage en moi me traverse. Je suis devenue sa maison. » Dehors, dans le paysage noir à la vache mugissante, quelqu'un prétend exister. Vu sous cet angle, le cercle se rétrécit autour de moi. Traversé par lui au-dedans, c'est là ma nouvelle situation. Et cela me plaît. Pendant la nuit, elle rêve d'une créature belle et dangereuse. Tout à la fois fille et serpent, aux longs cheveux. Cette créature médite la destruction du monde qui l'entoure. Alors, au cours d'une opération effectuée avec le plus grand soin, on lui ôte tout ce qui pourrait lui permettre de préparer cette destruction. On lui enlève le cerveau, le cœur, le sang et la langue. Et en tout premier lieu, on lui enlève les yeux. Mais on oublie de lui enlever les cheveux. C'est là l'erreur. Car aveugle, exsangue et muette, la créature acquiert maintenant une telle puissance que son entourage ne peut que trouver son salut dans la fuite. Que peut bien signifier tout cela? Quelques jours plus tard, elle vivra le premier miracle de son existence. Dans une chambre à Paris, elle se trouve en face de l'homme jasmin. Le choc qu'elle éprouve à cette rencontre est si violent qu'elle ne le surmontera pas. De ce jour, lentement, très lentement, elle commence à perdre la raison. Voilà.
Merci. Oui. Bah, ne raccroche pas, je te reprends au téléphone juste après ça. On passe le morceau que tu voulais après ta lecture, qui est Kraftwerk Radioactivity. À tout de suite.
À tout de suite.
je me déplace sur deux jambes.
Il y avait à nouveau des discussions politiques comme on en a rarement en fait.
De la bande organisée à la bande organisée.
À savoir, quelque chose doit revenir.
Que voilà, à Bordeaux aussi, c'est possible, juste tu bois un coup et pouf, une manif qui déboule et en plus.
Bordeaux métropole.
La rue Kléber, elle commence à le dépaver totalement. Tous les parcs à enfants ont été démantelés.
Alors, tout le monde a le couteau à la main, tout le monde vend de la drogue.
Ça m'a l'air d'être une bande organisée, très organisée. Super play.
Radio Potlatch, un dimanche sur deux à 16h30, 90.1 sur la clé des ondes.
Et maintenant, Henri Michaud, une nouvelle de Plume.
Dans les appartements de la reine. Comme Plume arrivait au palais, avec ses lettres de créance, la reine lui dit « Voilà, le roi en ce moment est fort occupé, vous le verrez plus tard. Nous irons le chercher ensemble si vous voulez bien, vers 5h. Sa majesté aime beaucoup les Danois, sa majesté vous recevra bien volontiers. Vous pourriez peut-être un peu vous promener avec moi en attendant. » Comme le palais est très grand, j'ai toujours peur de m'y perdre et de me trouver tout à coup devant les cuisines. Alors, vous comprenez, pour une reine, ce serait tellement ridicule. Nous allons aller par ici, je connais bien le chemin. Voici ma chambre à coucher. Et ils entrent dans la chambre à coucher. Comme nous avons deux bonnes heures devant nous, vous pourriez peut-être me faire un peu la lecture, mais ici je n'ai pas grand-chose d'intéressant. Peut-être jouez-vous aux cartes ? Mais je vous avouerai que moi, je perds tout de suite. De toute façon, ne restez pas debout, c'est fatigant. Assis, on s'ennuie bientôt. Alors, on pourrait peut-être s'étendre sur ce divan. Mais elle se relève bientôt. Dans cette chambre, il règne toujours une chaleur insupportable. Si vous vouliez m'aider à me déshabiller, vous me feriez plaisir. Après, on pourra parler comme il faut. Je voudrais tant avoir quelques renseignements sur le Danemark. Cette robe, du reste, s'enlève si facilement. Je me demande comment je reste habillée toute la journée. Cette robe s'enlève sans qu'on s'en rende compte. Voyez, je lève les bras et maintenant un enfant la tirerait à lui. Naturellement, je ne le laisserai pas faire. Je les aime beaucoup, mais on jase tellement dans un palais. Et puis les enfants, ça égare tout. Et Plume la déshabille. Mais vous, écoutez, ne restez pas comme ça. Se tenir tout habillé dans une chambre, ça fait très guindé. Et puis je ne peux vous voir ainsi. Il me semble que vous allez sortir et me laisser seule dans ce palais qui est tellement vaste. » Et Plume se déshabille. Ensuite, il se couche en chemise. « Il n'est encore que 3h15, dit-elle. En savez-vous vraiment autant sur le Danemark que vous puissiez m'en parler pendant 1h15? Je ne serais pas si exigeante. Je comprends que cela serait très difficile. Je vous accorde encore quelques temps pour la réflexion. Et tenez, en attendant, comme vous êtes ici, je vais vous montrer quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Je serai curieuse de savoir ce qu'un Danois en pensera. J'ai ici, voyez, sous le sein droit, trois petits signes. Non pas trois, deux petits et un grand. Voyez le grand, il a presque l'air de... Cela est bizarre en vérité, n'est-ce pas ? Et voyez le sein gauche, rien, tout blanc. Écoutez, dites-moi quelque chose. Mais examinez bien d'abord, bien à votre aise. » Et voilà Plume qui examine. Il touche, il tâte avec des doigts peu sûrs, et la recherche des réalités le fait trembler. Et ils font et refont leur trajet incurvé. Et Plume réfléchit. « Vous vous demandez, je vois, » dit la reine, après quelques instants, « je vois maintenant que vous vous y connaissez. Vous voudriez savoir si je n'en ai pas un autre. Non, dit-elle. » Et elle devient toute confuse, toute rouge. « Et maintenant, parlez-moi du Danemark, mais tenez-vous tout contre moi pour que je vous écoute plus attentivement. » Plume s'avance, il se couche près d'elle et il ne pourra plus rien dissimuler maintenant. Et en effet, « Écoutez, dit-elle, je vous croyais plus de respect pour la reine, mais enfin, puisque vous en êtes là, je ne voudrais pas que cela nous empêcha dans la suite de nous entretenir du Danemark. » Et la reine la tire à elle. « Et caressez-moi sur tous les jambes, disait-elle, sinon je risque tout de suite d'être distraite, et je ne sais plus pourquoi je me suis couchée. » C'est alors que le roi entra. aventure terrible. Quelles que soient vos trames et vos débuts, aventure douloureuse et guidée par un ennemi implacable.
Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás.
Et maintenant, une nouvelle anonyme d'un texte retrouvé dans une valise verte, dont il n'y a pas de fin à ce texte, puisqu'elle est détenue entre les mains de cambrioleurs bulgares. Ce texte s'appelle Rien secret. Je regardais le talon de son pied lâché au bord du matelas. Alors qu'il dormait, je me penchais sur ses courbes, ses lignes et sa force. Je me fascinais de sa grosseur, de sa crasse et de son odeur. J'ouvris les volets et je le vis disparaître en courant comme un fantôme terrifié. Le soir même, je retournai à notre lieu de rencontre pour le revoir. En disparaissant, il ne cherchait pas à me fuir. Il savait que la nuit était notre seul repère pour nous aimer. J'entrai dans la salle de cinéma après avoir déposé 3 pièces dans les mains de l'ouvreuse. Le film avait déjà commencé, les lueurs des projecteurs dessinaient des hommes-créatures dans la salle, sur l'écran blanc. Je m'assois à côté d'un homme seul. « Que fais-tu de tes mains ?» me demande-t-il. D'ordinaire, je n'en fais rien, mais avec lui, je tremble et je m'exécute. « Merci. » Il me propose ensuite d'aller voir la créature de ces lieux. À côté de l'écran blanc, en poussant une porte à peine visible, on pouvait y voir une file d'hommes venus voir la créature. Je m'insérais dans la file, avec eux, avec mon amant Vincent. Ce couloir était silencieux, et les hommes patients. Mais pour moi, l'attente fut longue. Il fallait les voir se caresser la braguette, poser leurs joues contre le mur, arranger leurs vestes en cuir. Je m'étonnais que personne ne se regarde. « Elle a le sida, » me souffle-t-on à l'oreille. Je restais quelques minutes encore et je faisais marche arrière. Traversant la file d'hommes, la salle presque vide, et la porte de sortie. Il faisait noir dehors. Le lendemain soir, Vincent frappe à ma porte. Je ne savais pas qu'il viendrait, je ne m'étais pas douché depuis 2 jours. Imagine ce qu'il y a en ce moment sur mon corps, de la saleté. On se fait un café, on ouvre une bouteille de vin, on mange du pain et du fromage. On ne parle pas beaucoup. Il me demande tout de même si j'étais bien rentré hier soir. Il veut me dire comment ça s'est passé avec la créature, mais je ne veux pas savoir. Il devient un peu trop bavard tout à coup. Il me gagne. Il me sait vaincu et un peu excité. Il sait sûrement que je bande déjà. Ses cheveux sont sales et poisseux, son haleine sent le sperme. Voudra-t-il regarder un film ce soir? Non. Instant impossible. Je ne sonderai rien. C'est lui qui a le pouvoir. Là, il me regarde. Nous allons alors dans la chambre. Nous enjambons les fringues sales qui jonchent le sol. Je ne m'excuse pas pour le bordel. Nous allons dans le lit, moi devant, lui sûrement derrière. Il s'allonge sur moi, souffle dans mon cou et pose sa main sur ma braguette prête à éclore. J'y vais. Stop. Je ne sais pas comment lui dire de partir. Sa présence rend impossible toute mise en scène ou parade de séduction. Il me dégoûte à ne pas avoir encore éjaculé et je suis là à attendre qu'il comprenne que pour moi, les choses sont faites et qu'il doit partir. Je n'avais pas prévu que les choses se passent ainsi. Je voulais qu'il dorme dans mon lit paisiblement. J'avais invoqué cette rencontre depuis beaucoup trop de temps. Enfin, il se répand hors de mon lit et il me dit un mot bizarre. Merci. Il s'en va. Enfin. La sécheresse s'étend et prend la forme de la nuit actuelle, c'est-à-dire une brume, une lune, un froid glacial, une chambre, des murs, du bordel, de l'entassement, une couverture moite. Je n'irai pas prendre de douche. Cet homme ne m'a pas vaincu. Je reverrai Vincent dans la salle de cinéma, j'en suis sûr. Je veux déjà l'éviter, ne pas lui adresser la parole, ne pas avoir à justifier mon hostilité soudaine.